Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes.
You are fake news.
Hello. 9h40 sur France Inter, c'est l'heure de l'instant M et c'est reparti. On est ensemble jusqu'à 10h.
Vous êtes en direct, allez-y.
Déferlante de rumeurs, même les plus folles, même les plus ridicules, même les plus tordues, de celles que les fact-checkers, journalistes spécialisés dans la vérification de l'info, estimeraient perdre leur temps à contrecarrer. Et pourtant, elles prennent et engendrent des angoisses profondes chez ceux qui les propagent, non pas pour jouer à faire peur, mais par peur véritable. Les intox pullulent au gré des comptes Facebook des Gilets jaunes. Comment expliquer cette porosité? Peut-on réduire ce mouvement populaire aux complotistes qui s'y activent? Les médias sont-ils audibles face à ces torrents d'informations? Quant au gouvernement, il avait fait des fake news une priorité. Loi votée, franchement, on se demande à quoi elle sert.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Samuel Laurent.
Bonjour.
Voilà, vous pilotez la cellule Les Décodeurs, lemonde.fr. Vous n'êtes pas beaucoup de fact-checkers, c'est-à-dire de journalistes spécialisés dans la vérification de l'information à Paris. On a reçu votre confrère de Libération, Cédric Mathieu, il y a un petit mois, il y a 3 semaines. À votre tour maintenant, vous voulez qu'on fasse, on passe en revue ce qu'on a vu ce week-end passer de plus rigolo, on va dire, on va prendre ça comme ça. Un avion donc attend Emmanuel Macron depuis 3 jours sur le tarmac de Villacoublay pour l'exfiltrer.
Pour l'exfiltrer quand les gilets jaunes arriveront et le
c'est la fuite à Varennes.
C'est la fuite à Marrakech, non, j'imagine.
Ah, c'est la fuite à Marrakech. On va y venir à Marrakech. D'accord. Donc c'est pas la fuite à Varennes. Qu'est-ce que vous avez vu passer
moi,
cette semaine?
Moi, j'en ai vu une rigolote. C'est la gendarmerie a fait appel à des blindés là pour la répression de la manifestation à Paris. Et ces blindés, c'était des vieux véhicules déclassifiés de missions de l'OTAN, je pense, ou de l'Union européenne. Mm-hmm. Donc il y avait des blindés qui étaient siglés avec le drapeau de l'Union européenne et un acronyme force quelque chose. Et ça a suffi pour que des gens imaginent qu'il y avait une force de répression européenne qui avait été envoyée par l'Europe totalitaire contre les gilets jaunes.
Alors on va voir qui, comment et pourquoi ces informations totalement bidons prennent autant d'ampleur en ce moment. On va commencer évidemment puisque nous sommes le jour J, hein, nous sommes le 10 décembre, c'est aujourd'hui que Emmanuel Macron va vendre la France à l'ONU. La date fatidique est donc arrivée, l'ONU prévoit l'arrivée de 480 millions de migrants pour détruire l'Europe, etc. etc. En tête de cortège à Lyon, samedi, une banderole, Marrakech, c'est non, pour le coup, sur Facebook, Maxime Nicole et Eric Drouet.
Et l'histoire de l'ONU, c'est qu'il veut signer un pacte pour accueillir 480 millions de migrants sur 8 pays différents et donner la place de siège permanent à l'ONU à quelqu'un d'autre.
C'est chaud.
Bah là, s'il fait ça, il vend la France carrément.
Ouais, il se sert de cette image-là pour du coup la vendre, quoi.
Samuel Laurent, le pacte de Marrakech est bien réel, pas les rumeurs. On va refaire le point rapidement, ça a été beaucoup fait sur France Inter, mais on va refaire le point rapidement sur l'origine de la rumeur, sur ses conséquences, sur qui la propage, mais surtout sur ses effets. Et ça, je pense que là, vraiment, tout le monde ouvre les yeux. Samuel Laurent, l'origine de la rumeur.
Alors, si on parle de l'origine de la rumeur, ça vient de l'Amérique de Donald Trump, de l'alt-right américaine, qui a fait de ce pacte. À l'époque, Donald Trump voulait marquer sa politique étrangère par des symboles. Mm-hmm. Donc, c'est une des premières choses qu'il a fait, c'est refuser de signer ce pacte que Barack Obama avait négocié. Et donc l'alt-right américaine a transformé ce pacte en une espèce de monstre juridiquement contraignant qui impliquait des tas de choses, ce qui est complètement faux. Ce pacte, si on peut lui reprocher quelque chose, c'est sans doute beaucoup plus de ne pas faire grand-chose à part du symbolique qu'autre chose. En fait, si vous demandez à des ONG qui s'occupent de migrants, ils vont vous dire l'inverse, ils vont vous dire que ce pacte ne sert à rien. Et donc on a transformé cette chose qui ne servait à rien en quelque chose de monstrueux. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien comment aussi les intox sont globales maintenant. C'est-à-dire que ça part des États-Unis, ça s'est déplacé jusqu'en Australie, jusqu'en Israël, jusqu'en Europe de l'Est. En Belgique, c'est en train de provoquer une grosse crise politique. En Allemagne également. Et c'est toujours basé sur ces mêmes rumeurs.
L'autre chose, donc il y a une mondialisation
de
l'information, certes, mais également une mondialisation
de la rumeur. Et de certaines communautés. Oui. De communautés dans ce qu'on appelle l'alt-right américaine, mm-hmm. qui maintenant est très connectée également avec ce qu'on appelle en France la fachosphère et ses équivalents dans toute l'Europe. Donc on a effectivement cette communauté qui, par ailleurs, se positionne souvent comme une communauté qui se défie des médias dits mainstream. C'est-à-dire que c'est aussi ça. C'est les médias ne vous en parlent pas, mais le pacte de Marrakech.
C'est-à-dire des médias généralistes institués tels qu'on les connaît. Un petit mot quand même. Qu'est-ce que c'est que Breitbart News ?
Mark News, c'est le navire amiral, on va dire, de cette alt-right, de cette droite alternative américaine. C'est l'ex-média de Steve Bannon, qui était donc le conseiller de Donald Trump assez influent. Et c'est un petit peu le modèle que vont suivre beaucoup en matière de ce qu'on appelle en France la réinformation, par exemple, qui est une idée qui est propagée beaucoup à l'extrême droite depuis des années, qui vise donc à décrédibiliser les médias normaux au profit de ces médias militants en disant qu'il n'y a qu'eux qui ont la vérité, quoi.
Médias normaux, ça, je pense que ça ne va pas leur plaire du tout. Steve Bannon, donc, n'est plus le conseiller de Donald Trump, mais il s'active dans toute l'Europe, justement pour fomenter une sorte d'alliance d'une Europe identitaire. Sachez que Breitbart News, pour analyser les Gilets jaunes, a fait appel à Renaud Camus, théoricien d'extrême droite, théoricien du grand remplacement. Ça en dit long. Steve Bannon était samedi à Bruxelles, pendant que les Gilets jaunes défilaient à Lyon, à Paris, à Bordeaux, à Toulouse. Il y rencontrait Marine Le Pen. C'était à l'invitation du patron de Vlaams Belang, qui est le parti belge d'extrême droite. Voici ce que Steve Bannon y a déclaré.
Paris brûle. Londres est en crise. Et le pacte de Marrakech sur les migrations est mort avant même d'avoir été signé.
Voilà, déclaration de Steve Bannon. Est-ce que on n'est pas en train d'assister en France à ce que les États-Unis connaissent depuis plusieurs années, ce qui a conduit notamment, parce que évidemment c'est multifactoriel, à l'élection de Donald Trump, Samuel Laurent?
Si, je pense que là on prend tous, en tout cas toutes les journalistes qui ne le voyaient pas, nous peut-être qu'on s'en rendait plus compte parce qu'on était déjà plus dedans, mais on prend tous la mesure de ce qu'on appelle la post-vérité. Là, on est complètement dans la post-vérité. Pour rester sur le pacte de Marrakech, ce matin, oui. Éric Ciotti, qui est quand même pas normalement un illuminé complètement fou d'un parti d'extrême droite, qui est représentant d'un parti de droite républicaine, dit à peu près la même chose que ce que vous trouvez sur Internet, c'est-à-dire c'est l'abandon de notre souveraineté, c'est une trahison nationale. LR a choisi cet axe, par exemple.
Et on n'a pas précisé que cette rumeur sur le pacte de Marrakech a été véhiculée par des élus, et par de nombreux élus, hein, pas seulement par des sites complotistes, et là je vous parle de la France. Alors, quand vous dites on est en train de prendre la mesure, on ouvre les yeux, on pouvait s'imaginer jusqu'à présent que les fake news étaient partagées, propagées, intox, rumeurs, etc. Par envie de mettre le feu, de jouer à se faire peur. On la voit passer, on se dit « Ouh, c'est énorme, mais elle est bien bonne celle-là, je l'envoie ». Quand on entend les témoignages sur les Facebook Live des Gilets jaunes, on entend des gens qui ont réellement peur, Samuel Laurent. Réellement, qui sont total. On entend dans leur voix, la voix s'étrangle, vraiment.
Je pense qu'il faut le comprendre et que c'est peut-être aussi l'occasion de voir ça et de mesurer ça. Cet été, on l'a peut-être moins vu parce qu'on était en vacances, il y avait la loi Schiappa qui était une loi sur pas mal de choses. Oui. Il y a eu une rumeur qui est née qui disait que c'était la fin du consentement sexuel et qu'en gros on avait légalisé la pédophilie. Là aussi, il y a des vidéos à des 3 millions, 4 millions de vues de mamans qui se filment dans leur voiture, qui sont sincères également et qui vous disent c'est horrible, faut faire quelque chose, on a légalisé la pédophilie.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous, dans un service de fact-checking, légaliser la pédophilie, vous vous dites on perd notre temps, c'est tellement absurde qu'on n'y va pas. Et le jour où vous vous réveillez, vous vous dites, c'est trop tard. Il y a déjà des centaines d'arguments qui sont prêts à être diffusés et des gens qui sont déjà convaincus. Et nous, on arrive avec nos moyens de médias mainstream, comme vous dites, de médias normaux, institués, traditionnels, etc. Et on n'est plus audible.
Oui, il y a un vrai problème avec ça. C'est-à-dire que si vous allez vérifier une rumeur balancée par un illuminé quelconque qui a 20 partages, ça n'a pas d'intérêt. C'est vous qui la faites monter. Et donc, il y a une espèce de courbe comme ça où il faudrait arriver à être au bon moment. C'est-à-dire au moment où les opinions se sont pas faites. Quand on arrive sur quelque chose comme le pacte de Marrakech avec 6 mois de propagande déjà préparée.
Vous ne servez plus à rien.
On ne peut plus lutter. Si, je pense qu'on sert pour les sceptiques. Je pense qu'après, pour les gens qui se sont déjà fait une conviction, ils vont rejeter nos arguments en disant de toute façon, ils mentent parce que ma conviction, elle est déjà faite, ce pacte existe, donc venez pas me dire que ça n'existe pas. Un autre problème de la manipulation comme ça, c'est qu'en fait, quelque part, si vous avez cru à ça, c'est très humiliant que quelqu'un vienne vous dire, mais vous avez cru à un truc complètement bidon, c'est extrêmement difficile psychologiquement à entendre.
Et par ailleurs, quand le monde s'exprime au nom du monde, précisément, ça engendre de nouvelles méfiances parce que c'est le monde qui parle et ça, vous vous en êtes vous-même victime vous tentez de faire votre.
Le fait même qu'on en parle, c'est la preuve que, regardez, c'est l'affolement dans on ne sait pas quoi, la Fédération internationale des journalistes pro-migration, j'imagine, quelque chose comme ça. Oui, et de toute façon, on est rejeté par une partie de ces gens-là parce que médias, entre une fois, mainstream, et parce qu'il y a une perte de confiance des journalistes qui est terrible, qu'on mesure aussi très bien là-dedans. C'est-à-dire, on vit dans un pays où des gens peuvent s'imaginer qu'on pourrait signer un pacte pour accueillir 480 millions de migrants ou rétablir la pédophilie sans que ni les journalistes, ni les élus ne s'en alertent. Ça veut dire quand même quelque chose chose sur la défiance dans la société aujourd'hui.
Alors, enquête du Times, le journal anglo-saxon la semaine dernière, également enquête de l'agence Bloomberg, des centaines de comptes liés à la Russie auraient cherché à amplifier les manifestations de rue qui ont secoué la France. Donc, pour le coup, ce sont des enquêtes extrêmement documentées. Alors, on voit ça arriver. On se demande si on peut réduire le mouvement des Gilets jaunes à des manipulations étrangères ou à des complotistes qui font toutes sortes d'infiltrations. Puis on se demande aussi à quoi sert la fameuse loi anti-fake news voulue par le gouvernement.
Bon, ça déjà, on peut régler le problème assez vite. Elle ne sert à rien, mais ça, on le savait déjà. La loi, oui. On savait qu'elle ne servait à rien.
Loi rejetée deux fois par le Sénat qui la disait non seulement inefficace, mais en plus liberticide.
Tout à fait. Et je pense que c'est le cas. C'est-à-dire que c'est une espèce de compromis impossible qu'ils ont voulu faire entre la liberté d'expression et le fait de pouvoir arrêter des rumeurs et des choses comme ça. On voit bien que ça ne peut pas fonctionner. De toute façon, elle a un cadre d'application tellement restreint, cette loi, qu'elle ne peut fonctionner qu'en cas d'élection, sur certains trucs, avec la possibilité d'un juge. Enfin, il faudrait prendre les gens qui diffusent des rumeurs un par un pour les faire passer devant un juge. Enfin bref, ça ne peut pas marcher. Mm-hmm. De toute façon, l'État ne peut pas lutter par définition contre ce qu'on appelle les fake news. C'est une impossibilité.
Ça, c'est ce que vous pensez. C'est-à-dire, c'est pas l'État s'y prend mal, c'est l'État ne peut pas lutter.
La puissance publique ne peut rien faire, sauf à tomber dans un système à la chinoise de contrôle des réseaux sociaux et d'Internet. Mais sinon, comment vous voulez faire? C'est impossible de surveiller Internet.
Alors donc, sur l'enquête de nos confrères américains?
Moi, j'ai une position assez mitigée. Honnêtement, j'ai pas fait l'enquête moi-même. De ce que j'ai vu, déjà, c'est des enquêtes qui portent sur Twitter. Twitter, c'est pas le réseau des Gilets jaunes. Le réseau des Gilets jaunes, c'est Facebook. Ce qu'on voit sur Twitter, ce sont des gens qui sont déjà beaucoup plus militants, par ailleurs, qui relaient des choses de Gilets jaunes éventuellement. Ensuite, ces enquêtes, elles portent souvent sur des tweets en anglais, sur des tweets qui parlaient des Gilets jaunes, mais en langue anglaise. Ouais. Là aussi, on parle d'une proportion très congrue. Qu'est-ce qu'elles nous montrent, ces enquêtes? Qu'il y a des communautés qui se mobilisent de manière internationale. C'est un peu le cas de Steve Bannon. C'est-à-dire que vous avez effectivement les supporters de Trump, peut-être des réseaux pro-Poutine, qui poussent parce que ça les intéresse et parce que ça les arrange, qui poussent des trucs sur les gilets jaunes parce que c'est leur actu du moment. Moi, je pense que c'est plus intéressant de comprendre symboliquement pourquoi l'extrême droite mondiale se met à revêtir des gilets jaunes et se met à essayer de récupérer ce mouvement-là, où là, on est finalement dans de la politique classique, que d'expliquer les choses par l'algorithme, ce qui est une réponse un peu tautologique, c'est-à-dire c'est ne pas vouloir voir les choses. Les gilets jaunes, ils existent, ils sont vrais, ils sont sur les ronds-points, ils sont sur Facebook, s'ils ne sont pas manipulés par les services secrets russes. Ce serait vraiment réducteur de dire ça.
Alors, ce travail de débunkage, vous, c'est un terme que vous utilisez, même que vous écrivez, qu'est-ce que ça signifie?
Débunker, ça veut dire vérifier les rumeurs. Je ne sais pas si une traduction plus précise que ça. C'est littéralement ça, vérifier une rumeur et la démonter, quoi, grosso
modo. Alors, vous l'avez entamé à propos des comptes Facebook des Gilets jaunes depuis déjà plusieurs semaines. Et notamment sur cette fameuse disparition de la Constitution. La France vivrait depuis 2016 sans Constitution. Vous êtes remonté à la chaîne YouTube d'un monsieur qui s'appelle Serge Petit-Demange.
Devant les articles tendancieux, déformés, mensongers, tronqué du Monde et France Info, je me rends compte que je n'ai pas été encore assez suffisamment explicite. Donc, je remets donc mon ouvrage sur le métier. Le 5 décembre 2016, Valls décrète la création de l'inspection générale de la justice, qui place l'autorité judiciaire, l'un des trois piliers fondamentaux de la démocratie, auprès du ministre de la justice, donc auprès du pouvoir exécutif. Le fait de placer l'autorité judiciaire auprès du ministre de la justice équivaut à lui donner un droit de regard. L'autorité judiciaire n'est donc plus indépendante, comme le prévoyait l'article 64 de la Constitution. Mesdames et messieurs les responsables de la situation dramatique généré depuis 1969, y compris vos héritiers. Préparez vos valises. Et n'oubliez pas une petite laine. Les nuits sont froides en prison, à cette époque.
Voilà, extrait d'une chaîne YouTube complotiste. L'homme, relativement âgé, est assis à la table du salon. Sa main est gantée de noir. Vous avez enquêté sur ce monsieur, Samuel Laurent?
Oui, alors il s'appelle Serge Petit-Demange. C'est un personnage assez fascinant et assez emblématique de ce qu'on peut voir sur les réseaux. Donc c'est un ancien militaire qui, visiblement, n'est plus depuis assez longtemps, qui s'est fait connaître au début des années 2000 parce qu'à l'époque, il avait une association où il proposait de dénoncer les auteurs d'infractions au code de la route. Et puis il est revenu un peu par la bande avec des messages assez généralistes sur la France qui allait pas, etc. Et puis en fait c'est vraiment cette histoire de constitution qui l'a rendu célèbre et il a grenouillé dans l'anonymat jusqu'à quasiment il y a 6 mois, 8 mois. Et c'est monté à la faveur des gilets jaunes. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait une vraie, bon, d'une part, un vrai problème de, une vraie ignorance du droit, parce qu'en fait, on peut pas abolir une constitution avec un décret. Il y a un truc qui s'appelle la hiérarchie des normes, qui fait que la constitution est supérieure au décret. Donc, le décret, par définition, ne peut pas la toucher. Ça, n'importe quel étudiant en droit le sait, mais si vous en avez jamais fait, et si, surtout si vous avez envie de croire que Macron est illégitime.
C'est ça. C'était une façon d'illégitimer le pouvoir, et donc de se dire qu'on allait pouvoir le renverser, de toute façon.
Et du coup, bah, vous avez un monsieur qui a l'air de dire des choses sérieuses avec un air très sérieux aussi. Donc vous finissez par le croire, quoi. Ce qui est assez dingue, c'est que la vidéo que vous avez passée, qui est une réponse notamment à mon article, elle a fait en une demi-journée plus de 60 000 vues.
Là, elle est plutôt même à 90 000 vues. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les décodeurs ne font pas seulement cela. Ils apportent aussi toute une boîte à outils pédagogiques. Comment comprendre le prix de l'essence en France, avec tableaux, chiffres et historiques à l'appui. Mais également, vous avez beaucoup travaillé sur le ras-le-bol fiscal, c'est-à-dire que, par exemple, connaissez-vous le vrai prix des services financés tout ou partie par l'État ? Vous avez créé un test et vous faites jouer finalement l'internaute. Un an de scolarité dans un collège, par exemple, est-ce que vous savez combien ça coûte ? Le coût moyen d'un billet SNCF, est-ce que vous saviez combien ça coûte ? Un an d'hôpital, etc. etc.
L'idée, c'est d'apporter des manières de relativiser, de prendre du champ et d'essayer de poser un peu la crise dans son ensemble, c'est-à-dire de dire aux gens aussi, voilà, ça, l'État paye des choses pour vous, et c'est pas si simple, les impôts, et les impôts, ça sert à payer des choses. Ce qu'on essaye.
Mais là aussi, vous reprenez tout un tas de tracts distribués par les gilets jaunes, c'est-à-dire que on ne prend que l'impôt et jamais la notion de redistribution. Oui, là aussi, vous faites de la pédagogie là-dessus. France périphérique contre France urbaine, une théorie, une thèse trop simpliste. Et vous prenez point par point, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, en ville, on ne roule pas en voiture et on n'a pas besoin de sa voiture ? Vous l'expliquez bien. C'est faux. Est-ce que les habitants de la campagne ne subissent pas la pollution de l'air, c'est faux, etc., etc. Donc c'est intéressant aussi de voir qu'il faut faire les deux, débunker, comme vous dites, les intox, mais également faire de la pédagogie sur tout le substrat des arguments.
Oui, et puis je pense que ce qu'on veut, nous, c'est montrer qu'il y a de la nuance. C'est-à-dire que je pense que si on devait nous résumer, ce serait peut-être pourquoi c'est plus compliqué que ça. Mm-hmm. Et en fait, je pense que c'est un peu ça qu'on essaye de faire, c'est de dire, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est pas si simple, c'est compliqué, c'est nuancé, et c'est important de comprendre ça, et de comprendre que tout n'est pas blanc, noir, et que c'est pas des solutions miracles.
C'est ce que vous répondriez au président de la République qui a déclaré ce week-end que la jonction des réseaux sociaux et des télés en continu est un poison pour la démocratie. Vous lui diriez vrai, faux ou c'est plus compliqué que ça ?
C'est plus compliqué que ça. Ce qui est vrai, c'est que les réseaux sociaux sont l'arrivée dans un nouvel âge de la démocratie. Je pense que là, on le prend aussi en pleine figure avec les gilets jaunes. On voit des gens qui s'organisent tout seuls sur Facebook, sans mouvement, sans syndicat, sans parti, sans leader, qui s'en défient violemment, qui même les envoient bouler. Les leaders, si jamais ils ont une vague expérience politique à 20 ans, ça suffit pour se faire ostraciser des gilets jaunes. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose d'assez innovant. Les télés d'infos en continu, je pense que c'est encore un autre sujet. Mm-hmm. Et bon, mélanger les deux me paraît compliqué, je vois à peu près où ils vont en venir. Mais ce qui est vrai, c'est qu'Internet aujourd'hui fait qu'on peut plus faire de la politique comme avant, et sans doute plus du journalisme comme avant non plus.
Il y a un petit côté désespéré dans ce que vous dites ou pas ?
Désespéré peut-être pas, lucide, je pense que j'essaie de l'être. Oui, je pense qu'il faut se rendre compte qu'on a...
Non, mais ce que vous dites aussi, c'est voilà, ça faisait des mois et des années qu'on alertait, qu'on voyait les choses, et au fond, même nos confrères étaient relativement sourds à ce que nous on a
vu
monter.
Oui, tout à fait. Moi, ça fait des années qu'on me dit, mais ça sert à rien le fact-checking, mais vous dites ça, mais en fait, les gens, ils y croient pas, tout ça, c'est vous qui faites naître ces rumeurs parce que vous en parlez. Ben non, c'est pas nous qui les faisons naître. Nous, ça fait longtemps qu'on sait que, voilà, que quand on débunk une rumeur, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui croient même à des choses complètement délirantes, enfin, qui paraissent complètement délirantes à l'autre, et que c'est important de s'en rendre compte. Et surtout qu'il y a une défiance des médias et des pouvoirs qui est telle que aujourd'hui on préfère croire à un inconnu qui dit n'importe quoi face caméra sur Facebook que le journal de 20h. Et ça,
voilà.
Il faut
et
vraiment
on va peut-être
en avoir
rappeler
conscience.
Que Facebook est le réseau social le plus utilisé en France et que toutes les informations et tous les messages sont dans une forme d'horizontalité où tout se vaut. Et donc c'est à ça que vous faites face.
Tout à fait.
Merci beaucoup Samuel Laurent. Merci. Les décodeurs du Monde étaient donc l'invité de l'Instant M.